François, mettez-vous bien en face de votre micro, parce que sinon on ne va pas vous entendre beaucoup.
Bonjour.
Comment ça va ?
Mais ça va bien, après le verglas la semaine dernière, c'est la neige et puis...
La slosh.
La slosh, comme on dit ici. Alors, j'ai dû courir un petit peu, mais me voici, me voilà, je vous l'avais promis, je braverai les intempéries.
Et d'accord.
Je le fais d'autant plus volontiers ce matin, ma chère Clotilde, qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde et nous allons vous faire voyager, vous et
oui.
tous nos auditeurs, un long voyage qui va nous amener de Montréal en Inde.
Mm-hmm.
Et si le temps chrono,
cette fois-ci,
le permet, on fera deux petits arrêts avant de retraverser l'Atlantique, l'un en Afrique et l'autre en Allemagne. Mais partons tout de suite en Inde, destination le Brahmapoutre. Le Brahmapoutre, c'est ce grand fleuve, ma chère Clotilde, ce grand fleuve qui, en fait, prend naissance dans l'Himalaya, au Tibet. Ensuite, il court dans le nord-est de l'Inde avant de rejoindre le Gange au Bangladesh.
Okay.
Et donc, c'est cette partie du Brahmapoutre en Inde qui nous intéresse aujourd'hui parce que c'est le cadre d'une très belle histoire. Le Brahmapoutre circule donc dans le nord-est de l'Inde, au cœur de la vallée la plus profonde au monde, qui fait 5000 mètres de profondeur. Et il y croise une île absolument étonnante parce que c'est sans doute l'île fluviaire, donc, la plus grande au monde, c'est l'île de Majuli. C'est là, le décor est planté,
oui.
c'est là que se passe notre belle histoire d'aujourd'hui. Et je vous propose de la découvrir avec un article que j'ai trouvé dans un journal qui est le Times of India, qui se trouve, petite anecdote, être le journal quotidien de langue anglaise le plus lu au monde, devant même USA Today.
Ah oui ?
Absolument. Alors, vous avez bouclé votre ceinture.
Oui, oui.
L'avion décolle.
Oui.
Et nous arrivons maintenant très rapidement en Inde. Voici ce que nous livre cet article que j'ai le plaisir donc de partager avec vous ce matin. Parfois, il suffit d'un seul homme pour réaliser un exploit qui restera gravé dans les mémoires de nombreuses années. Jadav Payeng le sait bien. Depuis 1970, cet homme originaire de l'île de Majuli, en Inde, cultive à lui tout seul une véritable forêt. De ses deux mains, cet inconditionnel amoureux de la nature a ainsi bâti une vaste étendue de végétaux qui fait désormais plus de 550 hectares ou 1360 acres. Située sur le Brahmapoutre, l'île de Majuli s'est formée au XVIIe siècle. Elle abrite aujourd'hui une population de 150 000 habitants. C'est aussi la plus grande île fluviale au monde. Mais ce record est menacé par un important phénomène d'érosion. En effet, la superficie totale qui était de 1250 km² au milieu du XIXe siècle a été réduite de plus de sa moitié. En 2001, l'île ne couvrait plus qu'une surface de 420 km². Selon les estimations, l'île pourrait avoir disparu d'ici 15 à 30 ans si l'érosion se poursuit au même rythme. Pour essayer d'endiguer le problème, causé notamment par l'acidification des océans, Jadav Payeng a consacré sa vie à planter des arbres avec, comme seul moyen, ses deux mains. Et c'est là donc que tout commence en 1979.
Incroyable.
En 1979, des crues importantes avaient rejeté un grand nombre de serpents sur le banc de sable de cette île. Après le retrait des eaux, Payeng, et à l'époque il n'avait que 16 ans, trouva le site couvert de reptiles morts. Et ce fut le tournant de sa vie. Je le cite, « Les serpents étaient morts de chaleur. Il n'y avait pas d'arbres pour les protéger. Je me suis assis et j'ai pleuré sur leur corps sans vie. C'était un véritable carnage. » Il poursuit, « J'ai alerté le ministère des Forêts et je leur ai demandé s'ils pouvaient planter des arbres. Ils m'ont répondu que rien ne pousserait ici et ils m'ont dit plutôt d'essayer de planter des bambous. » C'était dur, mais je l'ai fait, et il n'y avait personne pour m'aider, raconte-t-il. Il a aujourd'hui 47 ans. À l'époque, le jeune homme quitte ses études, quitte son foyer, et il se met à vivre sur ce banc de sable. Alors, contrairement à Robinson Crusoe, il accepta volontiers cette vie d'isolement. Et puis non, ma chère Clotilde, non. Il n'avait pas de vendredi.
Non, c'est ça.
Il arrosait les plants, matins et soirs, et il les taillait. Au bout de quelques années, le banc de sable est devenu un bois de bambou. J'ai alors décidé de faire pousser de vrais arbres. J'en ai ramassé et je les ai plantés. J'ai aussi rapporté des fourmis rouges de mon village. Les fourmis rouges changent les propriétés du sol. J'ai été piqué plusieurs fois, raconte-t-il en riant. Bientôt, toute une série de fleurs et d'animaux s'épanouirent sur le banc de sable.
Ah, c'est génial.
Y compris des animaux menacés, comme le rhinocéros à une corne et même le tigre royal du Bengale.
Ben voyons donc.
Au bout de 12 ans, on a vu des vautours. Les oiseaux migrateurs ont commencé à arriver en masse. Les daims et le bétail attiraient les prédateurs, déclare Payenne, qui s'exprime comme un véritable écologiste chevronné. La nature venait de recréer une chaîne alimentaire. Alors, le ministère des Forêts de l'Assam, la province donc où est cette île, le ministère des Forêts de l'Assam a entendu parler de la forêt de Payeng, et c'était en 2008. C'est là que Gunin Saikia, qui est le conservateur des forêts, a rencontré Payeng pour la première fois. Nous avons été surpris de trouver une forêt aussi dense sur le banc de sable. Mais quand on a vu ça, on a décidé de contribuer au projet, raconte-t-il. Payeng, il est incroyable. Ça fait 30 ans qu'il est là-dessus. Dans n'importe quel autre pays, il serait un héros. Alors, s'achève cet article que j'ai extrait, comme je le disais tout à l'heure, donc du Times of India. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que, après avoir obtenu cette espèce de reconnaissance qu'il ne recherchait pas, en fait, du ministère des Forêts, mais qui s'est surtout traduit par un peu d'aide, notre ami Payeng, en fait, a fait l'objet d'un documentaire qui lui a été consacré par le réalisateur canadien William McMaster, et c'était en 2014. Et là, effectivement, l'ensemble de la communauté internationale a découvert que cet homme, dans une simplicité et une humilité qui, aujourd'hui encore, frappe tout le monde, cet homme venait de dédier sa vie et avait consacré donc plus de 30 années à repeupler, à rebâtir une forêt. Et quand on lui demandait pourquoi, il disait, il fallait le faire, alors je l'ai fait. Il n'y a aucun moment, il ne parle des sacrifices que cela a signifié pour lui, pour sa vie. Et c'est à cela qu'on remarque, je pense, quand quelqu'un fait quelque chose de plus grand que sa propre existence, qui lui donne effectivement cette dimension. Et cette histoire, évidemment, ma chère Clotilde, n'est pas sans nous rappeler ce dont nous parlions lundi dernier, l'histoire de Pierre Rabhi, qui, si vous vous en souvenez, a lui-même consacré plus de 40 années de sa propre vie à développer l'agroécologie. L'homme, aujourd'hui, a 78 ans. Il poursuit. Il continue, contre vents et marées. Notre ami Payeng, en Inde, il continue.
Est-ce qu'il vit seul? Il a une famille ou pas?
Après avoir donc reconstitué cette forêt, effectivement, sa vie a commencé à se peupler aussi.
Mais nous
n'en dirons pas plus parce que je n'ai pas plus de détails. Je pense respecter cela.
Oui, bien sûr. Mais c'est parce qu'on se dit, est-ce que le sacrifice est allé jusque-là?
Absolument. Mais ce qu'on peut retenir, si je prenais la peine d'évoquer à nouveau Pierre Rabhi, c'est que les histoires, elles se répètent, elles se ressemblent d'une certaine façon. Il y a ce dévouement, cette implication sans limite d'êtres qui, effectivement, quand ils voient quelque chose qui leur paraît indispensable de faire, de corriger, peu importe l'étendue, l'immensité même de la tâche, ils le font. Pierre Rabhi a créé, il y a quelques années, une association, Colibri. Le colibri, nous le savons, beaucoup d'entre nous en tout cas le savent, c'est cette légende amérindienne qu'on trouve également en Amérique du Sud, ce petit oiseau tout petit qui, lorsque la forêt prend feu, eh bien, au lieu de fuir comme tous les autres animaux de la forêt, va avec son tout petit bec prélever quelques gouttes d'eau à la fois et inlassablement va les jeter au-dessus du foyer de l'incendie. Évidemment, les animaux vont se moquer, vont lui dire qu'il est stupide, qu'il est fou, qu'il risque sa vie à tout instant. Et à un moment donné, son geste qui se répète va les inspirer. Et d'autres vont venir l'aider. Et petit à petit, ils font une différence. Alors, pourquoi j'évoque ça? C'est parce que nous quittons l'Inde, nous prenons l'avion et nous allons nous arrêter au Kenya maintenant. Au Kenya, où a vécu une femme absolument remarquable. Elle a marqué la vie de son pays. Elle a fait une grande différence dans la vie des femmes, mais aussi dans l'écologie. C'est une militante, c'était une militante. Elle nous a quittés il y a quelques années seulement. Il s'agit de Wangari Maathai. Et Wangari Maathai, qui, je vous le rappelle, a reçu le prix Nobel de la paix en 2004, a elle aussi planté des arbres.
Ah oui.
Et avec les femmes de son pays, en quelques 16 ans, elles ont planté 30 millions d'arbres.
30 millions.
30 millions d'arbres. Alors immédiatement, depuis le Kenya, nous nous envolons vers l'Allemagne. Dans le sud de l'Allemagne, un jeune homme à Munich, Felix Finkbeier, a été inspiré par cette femme. Il a 9 ans, il a planté son premier arbre dans la cour de son école.
Oui.
Il
ah
en
oui.
a 17 aujourd'hui et croyez-moi, il a fait du chemin.
Ah oui. Comme
voilà.
Quoi. Comme quoi, mais bravo, merci beaucoup. C'est très inspirant. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Si on plantait tous chacun notre arbre dans un domaine ou un autre, et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième, peut-être que notre planète ne s'en porterait que mieux, mais peut-être que l'homme aussi s'en porterait
absolument
beaucoup mieux. Alors merci beaucoup François, comme quoi votre participation hebdomadaire ici à l'émission est plus qu'essentielle, je pense. Alors merci infiniment d'être là bénévolement à toutes les semaines. C'était François de Beaulieu qu'on retrouve lundi prochain.
À lundi, au revoir tous.
Au revoir.